tabou, ce corps qui s'exprimait, ce voyage assez transformateur, l'enseignement qui me faisait vibrer, tout ça mis bout à bout, et ben en fait, ça veut dire quelque chose. Et je suis partie au travail, mais le cœur hyper léger.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis et j'ai créé ce podcast pour aider celles qui, comme moi, ont envie de suivre une autre voie et sont passionnées de voyage. Le voyage m'a aidée à oser et à travers ce podcast et le témoignage de ces femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage, j'espère que vous aussi, vous trouverez l'inspiration pour suivre vos propres envies. Bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode de rentrée. J'espère que vous avez passé un agréable été et que vous avez pu en profiter pour décompresser et peut-être même vous poser les bonnes questions. J'ai choisi de commencer cette nouvelle saison de De Vraie Vie par un épisode qui est un vrai coup de boost si tu viens tout juste de reprendre le travail. Mon invitée, Amandine, est aujourd'hui coach professionnelle après une carrière dans les ressources humaines. Elle accompagne des femmes et des hommes dans leur reconversion, mais pas seulement. Avec Amandine, on a parlé de plein de sujets qui vont vous plaire pour cette rentrée. Burnout, le fait de devoir répondre à des normes, de carrière, de s'identifier comme son métier, du regard des autres, de la peur, du passage de salarié à entrepreneur aussi, et Amandine nous donne quelques conseils pratiques pour acter son changement de vie. Si, suite à cet épisode, vous souhaitez être accompagné par Amandine, sachez qu'elle lance une formation sur 3 mois en groupe, ça s'appelle Je me réalise et le programme comprend 23 heures de coaching collectif et 3 heures de séances individuelles. C'est l'accompagnement parfait si vous avez envie de mieux vous connaître, prendre confiance en vous, travailler sur vos blocages pour atteindre vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, allez la contacter directement donc sur son site web Be Your Best Self et vous lui dites simplement que vous venez de ma part et vous pouvez bénéficier d'une réduction donc de 10%. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt.
Bonjour Amandine.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors, je suis Amandine Ruas, je suis coach professionnelle, j'ai un parcours d'ex-responsable RH en entreprise. Depuis un an et demi, je me suis mise à mon compte. J'ai créé un concept qui s'appelle Be Your Best Self, être le meilleur de soi-même, et qui englobe mes différentes activités d'enseignante, d'auteur et puis de coach professionnelle.
Tu as fondé ton entreprise en 2018, Be Your Best Self. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Be Your Best Self, ça regroupe mes différentes activités d'accompagnement. Le fil conducteur de Be Your Best Self, c'est d'aider les individus à être qui ils sont vraiment et à pas simplement se conforter dans leur vie professionnelle et personnelle à ce que la société exige ou à ce qu'on croit que la société exige de nous. Donc l'idée vraiment, avec cet accompagnement que je propose via Be Your Best Self, c'est d'aider les personnes à trouver une carrière dans laquelle ils se retrouvent, dans laquelle ils trouvent du sens, et à être aussi au quotidien dans un rapport à l'autre où ils s'affirment, où ils ont confiance en eux, où ils sont capables aussi de mettre des limites, de se respecter et de se connaître pour être en fait tout simplement les individus qu'ils ont véritablement envie d'être.
Donc c'est la meilleure version de soi-même, c'est ça ?
Exactement.
Tu disais, c'est intéressant, je vais rebondir là-dessus, on a tendance à suivre un chemin que, alors soit la société nous dicte, mais c'est plutôt ce qu'on croit que la société nous dicte. Pourquoi tu dis ça ?
Parce que très souvent, en fait, on a l'impression que les autres exigent tout un tas de choses de nous. De réussir professionnellement, d'avoir un cercle social élargi, d'être à la fois un bon conjoint ou une bonne conjointe, une bonne mère ou un bon père, d'être aussi à la fois présent sur les réseaux sociaux, d'aller à la salle de sport, de partir en vacances, de faire tout un tas de choses, en fait, que la société présente comme des normes, notamment via les médias, les pubs, les réseaux sociaux. Et on rentre un petit peu dans ce piège de croire que finalement, si on ne le fait pas, les autres vont ou nous rejeter ou pas nous accepter. Alors que c'est pas forcément le cas, en fait. C'est simplement la projection qu'on a de ce que les autres attendent de nous.
Donc c'est dans notre tête, en fait. C'est nous qui nous créons nos propres...
C'est pas forcément dans notre tête, parce que si l'autre... en face, croit très personnellement que lui aussi doit répondre à ses exigences, puisque ses exigences deviennent une espèce de joug, une espèce de chaîne pour lui, par effet de miroir, il va aussi vouloir les appliquer aux autres. Si lui est dans sa prison, il va avoir envie de se rassurer, et donc il va aussi appliquer ses exigences aux autres. Mais tout le travail, en fait, c'est de se détacher de ça, et de se dire, en fait, je peux vivre ma vie selon mes normes, selon mes critères. Ce que la société a défini, c'est aussi lié à une culture, à un temps, à une éducation, à un pays. C'est pas une vérité absolue. Et en fait, j'ai le droit aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de faire le tri dans ces normes.
Alors, tu es coach professionnel, enseignante en école de commerce et à la fac aussi, tu as écrit un livre. Si on revient un peu en arrière, tu as commencé par des études à Sciences Po.
Oui.
Ça sonne bien. Tu as ensuite enchaîné avec un poste de responsable RH pour un grand groupe et tu y es resté 4 ans.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et t'as un peu le parcours de celle qui avait réussi finalement?
Alors c'est sûr que d'une certaine façon sur le papier c'est un parcours qui fait très bien. D'ailleurs sur le CV ça fait très vite effet auprès des recruteurs, auprès de mes clients, auprès des interlocuteurs. Mais justement en fait, et c'est l'objet aussi de tout le travail que moi j'ai fait sur moi-même et que j'invite mes clients à faire, on n'est pas simplement son parcours, on n'est pas simplement une étiquette, un titre, un statut. Mais c'est vrai que à la base j'ai très fortement cherché à avoir ce parcours un petit peu rassurant.
Oui.
Rassurant parce qu'il ouvre tout un tas de portes. Donc il y a eu Sciences Po Paris, j'ai aussi étudié une année à Londres à King's College, qui est une belle école anglo-saxonne. J'ai validé mon master à Sciences Po et tout de suite en sortant de mon master, j'ai eu mon premier CDI dans les RH. Et un an après, j'étais plus seulement chargée de RH, mais je suis devenue responsable des ressources humaines. J'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir un manager assez extraordinaire qui ne considérait pas que la légitimité d'une personne était basée sur son âge ou sur ce qu'elle avait déjà réalisé, mais aussi sur son potentiel. Et il a vu en moi, en fait, ce potentiel d'accompagnement des hommes au sein de l'entreprise dans laquelle on était. Donc, je suis devenue responsable RH d'abord d'un site dans le groupe dans lequel j'étais, et puis un an après d'un deuxième site, donc un périmètre de quasiment 400 personnes. Donc là encore, c'est une carrière, on va dire, qui fait envie, et moi-même, dont j'étais fière en fait. Voilà, beaucoup de responsabilités, un salaire aussi tout à fait correct, et puis ouais, une certaine fierté en fait d'être arrivée là très rapidement. Sauf que cette fierté, je l'ai tirée de ce titre et de ce parcours accéléré, on va dire, plus de ce que je faisais quotidiennement finalement, parce que j'avais choisi la RH pour le H de RH, c'est-à-dire le côté humain, et en fait je me suis très vite retrouvée à faire de la gestion de R, de ressources, et non pas d'hommes, c'est-à-dire que finalement j'avais envie de développer les individus, les accompagner dans leur choix de carrière, ce que je faisais de façon résiduelle, mais finalement quand on est RH, on est aussi tributaire de la stratégie d'un groupe, qui est une stratégie basée avant tout sur des gains financiers, du développement produit, une stratégie d'optimisation des ressources aussi. Et finalement, très vite, je me suis retrouvée devoir réduire les ressources. La dernière année où j'étais dans cette entreprise, et c'est aussi ça qui, je pense, a éveillé tout un tas de réflexions dans ma tête. Et la dernière année, donc, j'ai mené à bien un plan de licenciement où j'ai licencié 55 personnes. Et il y a eu en plus une externalisation où on a vendu en fait 15 contrats de travail, donc 15 personnes, à une autre entreprise. Donc on s'est séparé de 70 personnes. Et voilà, et c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile. C'est des messages avec lesquels on n'est pas forcément en adéquation. Et pour autant, en tant que responsable RH du site, c'était à moi de faire passer les messages. À moi aussi d'essayer d'arrondir les angles, de trouver des solutions pour essayer de reconvertir les personnes. On est entre la direction stratégique et le salarié. Et en fait, on n'est pas positionné d'un côté ou de l'autre. On est à la jointure de deux intérêts qui sont parfois contradictoires. Et le but, c'est de faire passer ces messages de la stratégie, tout en respectant les hommes, en fait, qui sont en dessous. Donc voilà. Donc, pour en revenir à ta question initiale, cette expérience RH est très riche. J'ai énormément appris humainement, juridiquement, aussi en termes de rigueur d'organisation, faut être hyper polyvalent, très réactif. En plus, je travaillais en anglais avec la stratégie du groupe, donc voilà, quelque chose de très challengeant intellectuellement, et ça j'adorais. Par contre, c'est aussi dur sur l'aspect humain. Je suis contente de l'avoir fait, mais j'ai eu aussi ce besoin, et je pense que ça va ensuite être dans tes questions que tu pourrais avoir, mais j'ai eu ce besoin du coup d'utiliser mes compétences humaines autrement,
d'accord,
en les mettant au service d'autres choses. Oui.
Je vais te poser une question qui est un petit peu, problème de société, je pense. On va parler de burn-out, bore-out et brown-out même. C'est quoi le problème pour toi aujourd'hui dans cette société? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils en ont marre? Ils deviennent malades à cause de leur boulot, en fait.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a une évolution au niveau des mentalités sur l'écologie, la planète, le sens qu'on a envie de donner à sa vie, une forme d'entraide qui est en train d'émerger, qui se traduit dans cette quête de sens dont on parle beaucoup, qui est vraiment prégnante au niveau de la société. Et encore, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas partout dans la société et il faut faire attention à pas avoir tendance à généraliser. C'est quand même un microcosme, et notamment le microcosme des grandes villes.
Qui est des cadres aussi.
Complètement. Ouais. Donc c'est pour ça que je prends des pincettes en disant ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment cette évolution dans ce milieu-là au niveau des mentalités. Et au niveau de l'entreprise, et c'est normal, c'est des grosses structures, donc on met pas en place un changement du jour au lendemain. Les choses ne vont pas assez vite, pas aussi vite. Donc du coup, il se trouve qu'il y a ce décalage entre ce que propose l'entreprise aujourd'hui, qui n'est pas non plus complètement archaïque, hein, il faut pas exagérer, mais qui est encore dans cette perspective d'une carrière assez traditionnelle, avec un management qui reste encore très pyramidal, des fiches de poste assez figées, alors que les individus, eux, ont besoin que ça aille vite, ont besoin d'évoluer, ont besoin de pouvoir être autonomes, etc. Donc déjà, pour moi, le premier facteur, c'est vraiment un décalage entre la vitesse de transformation de l'entreprise et la vitesse de transformation au niveau de la société. Le deuxième facteur, je pense, c'est que ce questionnement interne que peuvent avoir les individus, il y a peut-être 15 ans, je pense que ce serait pas pertinent de dire que les gens se posaient pas ces questions-là, mais comme il y avait pas les réseaux sociaux, comme il y avait pas cette vitesse de partage de l'information, à mon sens, les gens gardaient beaucoup ces questionnements en eux, pour peut-être une remise en question personnelle, dans leur lecture, dans leur cercle d'amis, etc. Aujourd'hui, ce questionnement, les gens l'ont, mais ils vont le conforter, le valider dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans tout cet écosystème start-up qui est en train de grossir, dans toutes ces offres d'accompagnement, ces produits de réflexion sur soi, etc. Et donc forcément, on se dit plus, bah je suis tout seul à me poser des questions, on se dit, c'est normal, je me pose des questions, tout le monde s'en pose, et donc, on normalise cette introspection, on l'expose, et forcément, on l'entretient aussi.
Ouais, un peu moins de peur de l'exposer, mais ça reste toujours délicat. Enfin, quand tu dis, j'en ai marre de changer de vie, t'as toujours ton entourage qui va dire, bah quoi, c'est quoi ton problème, t'as un CDI, t'as un bon salaire, donc c'est quand même, enfin, c'est le début, effectivement, mais pour moi, c'est pas encore...
Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que ça existe, on se rend compte que c'est pas une honte d'avoir ces questions, mais pour autant, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début sur ces normes sociales, il y a le regard des autres qui est très prégnant. Ouais. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui, on travaille beaucoup, au-delà de l'aspect carrière, on travaille aussi beaucoup sur les peurs. Les peurs et la question de la confiance en soi. Et en fait, ce qui revient très souvent, c'est que vont penser les autres.
Ouais.
Comment vont me regarder les autres? Et les autres, c'est les parents, c'est les amis. Et dans les amis, il y a ceux qui comprennent parce qu'ils se posent ces questions-là. Et puis, il y a ceux qui comprennent pas parce qu'ils se les posent pas.
Ouais.
Et dans ceux qui comprennent parce qu'ils se les posent, il y a aussi parfois une espèce de jalousie du genre, bah, moi aussi je me pose la question, mais j'ai pas le courage d'eux.
Oui.
Donc du coup, je juge aussi celui qui a le courage d'eux. Et puis, il y a nos propres peurs avec nous-mêmes. Et financièrement, comment ça va tenir? Et si je me rate? Et est-ce que c'est le bon choix? Et est-ce que c'est pas juste une crise de la trentaine ou de la quarantaine ou de la cinquantaine qui va passer? Donc oui, je suis d'accord avec toi, les peurs sont encore très prégnantes. On s'autorise plus qu'avant, mais c'est pas encore entièrement ça.
Et du coup, ouais, pour revenir au burn-out, tout ça, tu penses que c'est lié à un manque de sens, un manque de... Parce qu'on parle beaucoup d'ici des bullshit jobs, ça te parle? Est-ce que t'as des clients comme ça, peut-être ou...
Alors, j'aime pas trop cette expression manque de sens. Je l'utilise aussi, mais on a tendance à tout mettre derrière, sachant que finalement, chaque individu met des choses différentes dans le sens. Il y a des gens qui vont dire, bah le sens, c'est contribuer à sauver la planète. Il y a des gens qui vont dire, le sens, c'est juste moi qui fais, aimer ce que je fais, être hyper stimulé. Ouais. Mais pour autant, ça peut être dans une entreprise du secteur pharmaceutique qui fait des choses qui sont pas forcément bonnes pour la planète. Ouais. Donc, en fait, le sens va être très différent d'un individu à l'autre. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de la valorisation de ce qu'on fait par un management qui est capable de reconnaître la valeur de ce qu'on fait. C'est l'impression de contribuer à une échelle qui est différente pour les individus. Donc, ça peut être à l'échelle locale, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'entreprise. Mais en tout cas, Exactement. Mais l'impression que ce qu'on fait a un impact direct, ce qui est pas toujours le cas en grand groupe. Mm. Typiquement, en grand groupe, c'est très dilué. Quand on est dans une entreprise où il y a 20 000 personnes et qu'on est chargé de tel projet, ou de telle partie de tel projet, c'est très morcelé. Et il y a 50 personnes avec nous sur le projet. Notre impact, on le voit pas directement. Mm. Et très souvent, en plus, c'est des projets qui mettent des années d'abord à être validés, puis ensuite à être implémentés. Et on se rend pas forcément compte, en fait, de l'effet que son travail quotidien va faire. Mm. Donc, je pense qu'il y a ce besoin d'impact. Il y a aussi ce besoin de nourriture intellectuelle, ouais. D'être stimulé, d'être challengé, d'apprendre. Comme je disais, ce besoin d'être reconnu. Il y a aussi le besoin de collaboration, d'une vraie cohésion de groupe, qu'on n'a plus forcément à l'entreprise. Ouais. Soit parce qu'il y a beaucoup de compétition et du coup, le groupe est un peu tué. Mm. Par cette compétition, soit parce que les gens sont sous l'eau et donc ils ont pas le temps de nouer des relations de travail informelles. Je pense que c'est lié à tout ça. Et puis c'est aussi beaucoup lié à cette mouvance du développement personnel qui fait que les gens ont envie, en fait, dans leur métier aussi, d'avoir cette impression de grandir,
ouais,
spirituellement, d'évoluer, de faire leur chemin, mm, et pas juste être des exécutants, mais de pouvoir, en fait, créer des choses, contribuer, participer à quelque chose de plus grand et aussi participer à leur propre développement.
On va revenir sur ton parcours.
Oui.
Je vais te poser une question, je sais que t'aimes pas ce terme. Mais est-ce que t'as eu un déclic?
Alors, c'est une très bonne question. J'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser pour te répondre. Alors, oui, j'ai eu un déclic en ce sens qu'il y a un matin où je me suis réveillée et je me suis dit, ça suffit. Et ça s'est vraiment passé comme ça, je vais te le raconter.
Ah oui.
Donc oui, il y a eu ce matin où, en effet, c'était plus possible, les choses ont changé. Et d'ailleurs, je suis allée au travail et c'est le moment où j'ai dit à mon boss, je pars. Mais là où j'ai vraiment envie de prendre des pincettes et de pas utiliser ce terme déclic, c'est qu'en fait, ce déclic, j'ai mis 3 ans à le préparer. C'est-à-dire que pour que un jour, je me suis dit, ok, il est temps, il y a eu un faisceau d'action, un faisceau de réflexion, un faisceau d'indices que j'ai mis des années à construire et qui se sont rencontrés ce matin-là, en fait. C'est ça qui s'est passé. Tout d'abord, ça faisait, je dirais, 3 ans que moi, j'étais baignée dans le développement personnel. Ce que j'appelle être baignée dans le développement personnel, c'est que je lisais, et je lis toujours énormément sur le sujet. En fait, pour être parfaitement honnête, je ne lis plus que ça. Je dévore ces livres qui permettent de se poser des questions sur ses émotions, sur soi, sur la place qu'on a envie d'occuper dans le monde, sur la façon de travailler sur des blessures, des traumatismes, travailler sur son perfectionnisme. Bref, tout un tas de sujets. Quand je dis développement personnel, c'est vraiment au sens très large. J'adore tous ces ouvrages. Et donc, ça faisait des années que je lisais ça, et que déjà, je commençais à me poser un petit peu des questions sur vraiment la façon dont j'avais envie de mener ma vie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je méditais aussi beaucoup, ce qui permet d'avoir un recul, de se rendre compte que on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos peurs. Ouais. Elles sont là, elles sont en nous, mais on n'est pas obligé de se laisser diriger par elles. Donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Ensuite, sur le plan professionnel, comme je te l'ai dit, il y a eu aussi ce gros plan social,
ouais,
qui a été une claque et qui m'a permis de me dire « Ok, t'as des compétences d'accompagnement, de gestion de conflits, de gestion des émotions, t'as une vraie empathie. Comment l'utiliser autrement qu'au service d'un grand groupe qui met en place des décisions stratégiques avec lesquelles t'es pas forcément d'accord ?» Donc ça, c'est la deuxième brique de réflexion. La troisième, c'est qu'en parallèle de mon job, à l'échelle d'une demi-journée par semaine, je me suis mise à enseigner. Donc c'est quelque chose que j'avais vu avec mon manager qui comprenait que j'avais besoin d'être aussi nourrie dans d'autres choses. Et il m'a dit, ok, tu peux prendre tes congés pour aller enseigner une demi-journée par semaine. Et donc j'ai commencé à enseigner à la faculté des cours de ressources humaines à l'époque. Et en fait, la pédagogie, le contact avec les étudiants, le fait de transmettre, de donner de l'amour aussi d'une certaine façon à ces jeunes, en répondant à leurs questions, en essayant de les aiguiller, en essayant de les aider à apprendre à analyser, à prendre du recul. C'est quelque chose qui m'a passionnée. Donc déjà, je me suis dit, il n'y a pas que les RH, il y a peut-être d'autres choses. Ensuite, je me suis mise à écrire. Je pense que ça avait une vertu assez cathartique pour moi. Voilà, le week-end, après des lourdes semaines, jeter sur le papier un petit peu des émotions, des ressentis, alors au travers de personnages. Hein.
D'accord. Okay, donc c'était déjà de l'écriture, comment dire. Tu n'écrivais pas un journal intime, quoi. Tu savais que ça allait faire quelque chose à la fin.
Tout à fait. C'était pas du journaling, c'était pas simplement... Ouais. Jeter des pensées sur le papier, mais c'était plus écrire une histoire, et au travers de cette histoire, avoir divers personnages qui puissent représenter à eux tous peut-être différentes visions du monde que j'ai, et chacun sont peut-être un petit bout de moi-même ou de choses que j'ai observées. Mmh. Et donc ça me permettait en fait aussi, par le biais de ces personnages, de réfléchir à moi-même. Et en fait, c'est très rigolo parce que mon personnage a vécu une transformation, puisque sans spoiler le dénouement de mon roman, mais il se pose des questions sur son métier, sur la vie qu'il veut mener, et puis après, bah, il se passe quelque chose dans sa vie, il y a un événement déclenchant qui fait que bah il va prendre les choses en main et changer sa vie, transformer sa vie. Et en fait, cette transformation suivie par mon personnage m'a aussi donné envie de la faire pour moi.
Ah oui.
Donc ça a été un dernier élément déclencheur. Je dis dernier, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que le dernier, ça a été un voyage. Je suis partie en Thaïlande. Là-bas, j'ai médité. J'ai pris du recul. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai déconnecté. J'ai fait ce vide fertile qui permet de prendre du recul sur sa vie. Et je suis rentrée de voyage. Et là, j'ai été clouée au lit par une énorme migraine, sachant que je n'ai jamais de ma vie était malade, c'est-à-dire très bon élève, perfectionniste, tout ce qu'on veut, j'ai jamais manqué une heure de cours, j'ai jamais manqué une demi-journée de boulot. Mais là, ce jour-là, j'ai pas pu me lever. Ma tête...
En rentrant du voyage, juste avant de reprendre le boulot.
En fait, j'ai repris 3-4 jours, et là, ma tête était clouée à mon oreiller. Je pouvais pas me lever. Énorme migraine. En plus, c'est drôle parce que je crois très fortement au symbolique, et ça s'exprime au niveau de ma tête. Je pense que ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'était ma tête qui disait en fait non, tu surcharges trop de choses, t'as trop de pression, etc. Et là je me suis dit, ouh, ça aussi c'est intéressant. Et donc tout ça mis bout à bout, ce corps qui s'exprimait, ce voyage assez transformateur, l'enseignement qui me faisait vibrer, le plan social dont je pouvais plus quoi, je pouvais plus être là à licencier des gens, ce personnage qui menait une vie qui me faisait rêver dans mon propre livre, tout ça mis bout à bout, et ben en fait... Une fois que ma migraine s'est terminée, le lendemain, le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bah en fait, ça veut dire quelque chose. Mmh. Et je suis partie au travail, mais le cœur hyper léger. Et je chantonnais en allant travailler, avec quand même une petite boule au ventre. Et je suis arrivée, j'ai dit à mon boss, il faut que je te parle. Je veux partir. Voilà. Donc oui, j'ai eu un déclic, parce qu'il y a ce matin où j'ai su qu'il était temps de parler à mon boss et de dire ça suffit. Et en même temps, c'est un déclic qui a mis 3 ans à se préparer.
Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, on va parler des peurs, et ça enchaîne bien parce que, du coup, changer de vie, bah, ça fait peur. Quitter un boulot, ça fait super peur. Ouais. Mais d'où est-ce qu'elles viennent, ces peurs, en fait? On en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, la peur du regard des autres, des peurs financières, de l'échec, tu disais, la peur de confort aussi.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on fait pour passer outre? Comment est-ce que t'as fait, toi?
Très personnellement, j'avais une peur phobique de perdre mon identité. C'est très étrange, hein. Mais j'avais l'impression que j'étais Amandine Ruas, responsable des ressources humaines en grand groupe. Et que, d'une certaine façon, dans les soirées, face à un inconnu, c'était une source de pouvoir.
Ouais.
Une source de légitimité.
De fierté aussi.
De fierté. Ouais. Une forme d'identité. Et je me disais, mais en fait, le jour où tu pars, et en plus, tu vas créer quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas créé. Donc, dans 10 ans, ce sera peut-être super chouette de dire, bah, je suis Amandine qui ai créé mon entreprise. Donc, c'est une identité qui me rassurait, mais à long terme. Je me suis dit, dans l'entre-deux, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je deviens? Ça, c'était hyper, hyper effrayant. De me dire, est-ce que j'existe encore, indépendamment de ce statut que je me suis créé? Et c'est là que c'était très intéressant, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup construit mon identité sur ma carrière. Et donc, ça a été aussi tout un travail sur moi de me dire, bah, tu es d'autres choses. Tu es Amandine, l'amie d'un tel et d'une telle. Tu es Amandine, la personne créative. Tu es Amandine qui aime écrire. Tu es Amandine qui a besoin de méditer, qui est aussi dans une mouvance de développement personnel. Tu es Amandine qui aime aider les autres. Bref, me créer d'autres identités qui n'étaient pas propres à ma carrière. Mais c'était peut-être ma première peur. Ma deuxième peur, c'était une peur de l'échec.
D'accord.
Ok, si tu pars, et qu'il se passe rien en fait, ou qu'il se passe quelque chose mais que c'est un raté, que t'arrives pas à vivre de ce que t'as envie de créer, ou pire, que tu n'as pas d'idée de ce que tu vas créer, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, cette peur de l'échec, c'est drôle parce qu'elle a été construite sur une peur du regard des autres. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres si tu te plantes? Que vont penser tes amis? Que va penser ta famille? Bah voilà, elle a fait un caprice, elle est partie, et ben elle mérite bien le gros ratage.
C'est ça.
Donc ça, c'était...
Il y a une petite forme de... Comment dire, les gens sont parfois, ils peuvent être contents si tu te plantes, parce que c'est genre un peu... Moi j'avais raison, je lui avais dit de pas partir.
Exactement.
C'est horrible quoi de se dire que ta propre famille peut penser ça.
C'est drôle ce dont tu parles, mais oui, il y a un petit peu ce côté donneur de leçons.
Ouais.
Et ben tu vois, moi, je suis restée, donc peut-être que tu disais que c'était pas courageux, ou peut-être que ça a l'air confortable, etc. Mais en fait, Non, c'était simplement la voix de la raison. Et toi, t'as fait ta crise de folie un petit peu.
Ouais.
Et ça me faisait très très peur. Plus que le ratage en lui-même, ça je me disais, bah au pire, tu retrouveras un boulot, avec ton profil, y a pas de problème, j'avais confiance en mes compétences, mes qualités, etc. Mais c'était plus le ratage dans le regard des autres et le côté donneur de leçons de tous les autres si jamais je me plantais, qui me faisait très très peur. Ouais. Et ça, en fait, j'ai compris que j'avais pas besoin d'avoir l'approbation de tout le monde pour vivre ma vie. Que peut-être ces gens-là diraient ça si je me loupais. Mais que c'était pas grave, en fait. Que ces gens-là, si en effet ils pouvaient me tenir ce genre de discours, c'était peut-être des gens que j'avais pas forcément envie d'avoir dans ma vie. Ou alors, si je tiens à eux, si c'est des gens qui sont importants pour moi, bah faire le deuil en fait d'une acceptation totale. Mmh. C'est-à-dire je peux construire une relation avec eux qui est pas basée sur une approbation de tout ce que je fais et voilà. Donc vraiment en fait accepter de vivre avec l'approbation que moi j'ai de moi-même, que certaines personnes ont de moi, que mon conjoint a de moi, que mes amis proches ont de moi, et me dire mais en fait personne n'est accepté par tous. Et on vit très bien comme ça.
Mais c'est vraiment difficile, je trouve. Pour mon exemple, à partir du moment où j'ai dit que j'allais démissionner, j'ai tout de suite vu, moi, le pire, c'est ma mère, qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ses propres peurs se reflétaient sur moi, du coup, et j'avais vraiment besoin qu'elle accepte, mais qu'elle comprenne, déjà. Mmh. Qu'elle comprenne pourquoi je faisais ça, sans qu'elle me dise, ok, j'accepte, mais juste comprendre. Et en fait, elle a jamais compris, et encore aujourd'hui, ça fait un an, je pense qu'elle n'a toujours pas compris, mais j'ai réussi au bout d'un an à faire un peu le, ok, passer outre, ok, mais elle comprendra pas, c'est pas grave. Mais ça prend quand même du temps, c'est difficile, je trouve.
Je suis très d'accord avec toi. Ouais, cette peur de pas être comprise, elle est très marquée. Elle fait écho à la peur de rejet, qu'on a tous, hein, parce qu'en fait, si on parle même de l'homme préhistorique qu'on a été hein, fut un temps, on ne pouvait survivre que par le groupe. Il y avait ceux qui allaient chasser, il y avait ceux qui allumaient le feu, il y avait ceux qui élevaient les enfants, etc. On avait énormément besoin du groupe, aujourd'hui encore aussi. Mais tout ça pour dire que c'est un instinct en fait de survie, le besoin d'être accepté, de pas être mis à l'écart par le groupe. Donc c'est quelque chose de très primaire. Et je suis d'accord, c'est peut-être la partie qui est la plus difficile. Et je suis d'accord avec toi, en fait, ce sentiment de pas être compris, ça peut presque être blessant. Moi, mes parents n'ont jamais compris ça. Et eux, ils ont une carrière très lisse, la carrière classique. En plus, on reste des années en entreprise, qui correspond peut-être à une autre génération, à une autre époque. Et pour eux, partir de mon entreprise, c'était pas une forme de courage, c'était une forme d'abandon, ce côté folie, etc. Ouais. Et même aujourd'hui, où ça marche, où je suis lancée, où ça fonctionne, où
tu vis ton activité,
je vis de mon activité, je m'épanouis de mon activité, ça m'a aussi transformée personnellement, parce que plus on est épanoui, plus on ouvre des portes à d'autres choses aussi. Ils regardent ça tout de même avec un regard très circonspect. Ça sort de leur système de valeurs, de leur système de compréhension du monde. Mais ça aussi, en fait, c'est une acceptation qu'il faut faire. Et c'est très dur, c'est très long, mais c'est de se dire, mais en fait, je ne vis pas ma vie pour rentrer dans le système de valeurs des autres. Je vis ma vie pour être alignée avec mon système de valeurs. Et ça peut parfois conduire à faire des choix, peut-être à écarter certaines personnes, ou à écarter certaines formes de relations avec certaines personnes. Typiquement, aujourd'hui, avec mes parents, je vais pas rentrer dans le détail de ma vie professionnelle. Mais c'est pas grave, en fait. Il y a d'autres choses qui peuvent être construites. Donc voilà, c'est simplement renoncer, ou à certaines formes de relations, ou à certaines relations tout court, ou à certains sujets de discussion avec des personnes, et l'accepter du moment que soit, en fait, on est bien avec le mode de vie qu'on mène, quoi.
Est-ce que tu penses que le voyage, ça peut aider dans ce processus de changement de vie, et de changement de métier, en fait? Donc, tu parlais d'un voyage en Thaïlande. Est-ce que t'as eu d'autres expériences, toi-même?
J'ai envie de parler de plusieurs types de voyages, en fait. Oui, je suis intimement convaincue que le voyage aide dans la prise de recul qu'on peut avoir dans sa vie, dans la connaissance de soi, dans la connaissance d'autres styles de vie qui existent également. Et personnellement, ça m'a énormément aidée. En effet, donc moi, je pense que ce voyage en Thaïlande dont je parlais tout à l'heure, ça a été un petit peu cette prise de recul dont j'avais besoin pour m'extraire de mon quotidien, ne plus avoir le nez dans le guidon, être sous l'eau, parce que quand on est dans cet état, on est sous stress, on n'arrive plus à penser avec recul, on n'arrive plus à être créatif. Alors que voilà, s'extraire un petit peu, prendre de la distance, bah c'est là où on relativise aussi certaines choses. Donc moi, c'est ce à quoi ça m'a aidé. Mais j'ai envie aussi de te parler d'autres voyages qui ont été assez transformateurs pour moi. Notamment un voyage en Indonésie. L'Indonésie qui pour moi est marquée d'une vraie spiritualité Et je parle pas ici de religion et de religiosité, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire un contact des habitants de ce pays à leur nature, une volonté d'entraide, un amour aussi d'une vie où on prend le temps, où on donne à l'autre, où on médite. Et en fait, là-bas, j'ai eu une forme d'autre déclic, pour reprendre ce terme-là. Notamment, j'ai découvert le yoga là-bas. Ça a été extrêmement transformateur parce que ça m'a permis aussi de découvrir un autre rapport à mon corps et de comprendre qu'en fait j'étais pas qu'une cervelle très bête, mais voilà, Amandine Sciences Po Paris, Amandine Carrière, Amandine Création d'Entreprise, c'était aussi une Amandine très cérébrale. Avec l'intégration du yoga dans ma vie, j'ai découvert aussi que j'étais un corps qui avait des émotions, que ces émotions pouvaient se ressentir à différents niveaux, au niveau du cœur, au niveau de mon ventre, au niveau de mes épaules, etc. Et que ça portait aussi des messages. J'ai approfondi là-bas ma pratique de la méditation et j'ai ramené tout ça en France. Donc en fait, le voyage m'a permis d'aller explorer d'autres choses et de les intégrer dans mon quotidien à mon retour. Aujourd'hui, je pratique toujours le yoga tous les matins. Je pars d'ailleurs la semaine prochaine en Inde faire une retraite de yoga, de méditation et d'ayurveda. Parce que je suis intimement convaincue qu'en fait, on croit ou on croit pas à la force de la méditation, de la spiritualité, etc. Mais je suis intimement convaincue que prendre ce temps pour soi, pour ralentir, pour aller voir un petit peu en soi, pour ne plus être dans des modes de fonctionnement et de pensée automatique, et bah ça permet d'ouvrir la porte à d'autres choses. À la créativité, à d'autres idées, à plus de bienveillance envers les autres et aussi envers soi-même. Donc oui, pour moi, le voyage, ça transforme. Et aujourd'hui... ces retraites un petit peu, notamment en Asie, qui, c'est des pays qui pour moi ont beaucoup de puissance, là, sont extrêmement importantes.
Et ce voyage que t'as fait en Indonésie, donc tu travaillais, t'étais encore responsable RH, c'est ça ?
Non, je venais de lancer mon entreprise pour le coup.
C'était après,
mais ce qui est assez drôle, c'est que ça a fait basculer ma façon de mener ma vie d'entrepreneur.
D'accord.
C'est-à-dire que les 6 premiers mois, j'ai lancé mon entreprise en travaillant d'arrache-pied les soirs, les week-ends, je faisais des semaines qui n'étaient pas humaines. En fait, je me remettais un petit peu en mode pilote automatique et robot sur le même rythme de carrière et de vie que ce que j'avais fait en tant qu'RH. Donc en fait, j'avais quitté ce monde de l'entreprise qui me convenait pas, ce métier qui me convenait moins, pour quelque chose qui me convenait mieux, mais que je vivais et que je menais sur l'ancien mode. Donc j'avais transposé mes problématiques de perfectionnisme, de stress, d'envie de bien faire, de besoin de réussite, dans cette carrière d'entrepreneuriat. Et en fait, en Indonésie, avec cette prise de distance, avec ces temps de méditation, ces temps pour moi, je suis rentrée et j'ai dit « Ok, non, tu t'es créé le quotidien professionnel dont tu rêves, c'est pas pour vivre une vie qui est en fait finalement sur l'ancien modèle. » Et c'est là en rentrant où j'ai intégré le yoga dans ma vie, aujourd'hui je travaille beaucoup, mais en respectant mes besoins, je cale mes journées sur celles de mon compagnon qui part au travail le matin à 9h et qui rentre à 19h, mais qui me permet du coup d'avoir des journées à peu près normales. Je travaille plus les week-ends. Oui, il y a des soirs où j'anime des ateliers parce que c'est là où les personnes sortent du boulot et sont disponibles pour faire 2 heures d'atelier, de workshop, etc. Mais j'en fais pas 5 par semaine, j'en fais un tous les 15 jours. Et donc en fait, aujourd'hui, je vis sur un rythme qui est beaucoup plus en adéquation avec moi-même et je sais m'écouter. Je sais quand je suis plus créative parce que je suis fatiguée. Je sais quand je suis en train de saturer. Je sais reconnaître aussi mes schémas de stress quand ils surviennent. Donc, en fait...
Ça, tu l'as appris, comment dire, sur le tas ou c'est... Enfin...
Je l'ai appris au fur et à mesure, mais en apprenant à m'écouter grâce à la méditation, grâce au yoga, grâce à mes lectures de développement personnel aussi, que je fais toujours, qui sont utiles à la fois pour moi et pour mes clients.
C'est vrai.
Des fois, je lis des livres en me disant, bah, celui-là, il est pour mon client parce que ça va me donner aussi des clés pour l'aider et puis je trouve aussi des clés pour moi.
Ouais.
Des fois, je lis un livre pour moi et en fait, il débloque une situation de mon client. Je suis coach, j'accompagne des personnes, mais je considère aussi que je peux pas être un bon coach sans faire moi-même un travail sur moi. Donc moi, je fais aussi une thérapie à côté que je pense que je ferai toute ma vie parce que c'est une prise de recul trop importante pour moi. Peut-être que je changerai aussi de thérapeute par moment pour avoir d'autres visions, d'autres types d'accompagnement. Mais pour moi, c'est trop important d'avoir aussi quelqu'un qui me met face à parfois des contradictions qui ressurgissent. C'est pas parce que j'ai travaillé sur mes peurs qu'il y en a pas d'autres par moment qui reviennent, ou des anciennes qui sont encore là par instant. Donc c'est trop important aussi d'avoir ce travail en parallèle.
C'est quel type de thérapeute ?
C'est un psychologue.
Psychologue, ok.
Ouais, exactement. J'ai aussi fait un petit peu d'hypnothérapie. J'ai aussi testé d'autres choses, des constellations familiales, des coachings.
Ouais.
Voilà, pour moi, c'est... Déjà, en tant que coach, c'est hyper important de savoir tout ce qui se fait.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout, Mais ça veut dire que j'ai conscience d'autres accompagnements, et des fois c'est important aussi de pouvoir dire à un client, là avec ma méthode, je ne peux pas t'aider.
D'accord.
Ou je peux pas t'aider à 100%. Donc peut-être que tu peux compléter, ou que tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Et puis d'expérimenter aussi ces différentes alors on appelle ça thérapie douce, ou ces différents accompagnements. Mais ouais, ça fait partie et de mon équilibre, et aussi de mon devoir de coach d'une certaine façon.
Et du coup, donc tu es coach aujourd'hui, comment est-ce que tu as su que c'était ce métier-là? Est-ce que justement tu as fait un accompagnement par une autre coach, ou un ou une autre coach, qui t'a aidé à trouver ça, ou c'était logique pour toi?
C'est assez marrant, ça a été complètement naturel en fait. J'appelle ça coach parce que finalement, c'est peut-être la terminologie qui vient englober le plus facilement toutes mes activités, mais en fait ce que je fais c'est de l'accompagnement.
D'accord.
Ça a été logique parce qu'il y avait la pédagogie, qui était une forme de transmission et d'accompagnement. Il y avait l'écriture, et pour moi l'écriture c'était pas que être écrivain.
Ouais.
Si jamais tu as l'occasion de jeter un petit œil à mon ouvrage, tu verras qu'en fait c'est de l'accompagnement dans mon ouvrage. C'est-à-dire que c'est un parcours initiatique, le lecteur peut y trouver des clés de vie, peut y trouver des clés de réflexion. Donc là aussi il y avait l'accompagnement par l'écriture. Il y avait ensuite l'aide que je pouvais fournir en tant qu'RH sur la carrière, sur le fait de trouver sa place. Ouais, tout cet accompagnement à mener un chemin de vie sur ses peurs, sur ses émotions, que je faisais d'abord au début de façon un petit peu informelle avec des amis, avec des personnes qui me sollicitaient, avec les personnes que j'accompagnais en entreprise. Et puis que de plus en plus, en fait, on venait chercher chez moi comme une prestation. Et donc tout ça mis bout à bout, en fait, je me suis dit, comment mettre un terme sur ce que je fais avec les personnes que j'aide, et donc j'ai utilisé ce terme de coaching.
D'accord.
Parce que c'est le plus englobant. Au début, j'étais davantage sollicitée sur la carrière, et de plus en plus, et ça c'est aussi l'effet du bouche à oreille, des personnes que j'ai accompagnées sur la carrière m'ont recommandé pour d'autres choses.
D'accord.
Parce que finalement...
Ça les a aidées aussi sur d'autres pans de leur vie.
Tout à fait. En fait, c'est un écosystème, c'est-à-dire que quand on vient pour essayer de changer de métier, on se rend compte que on n'y arrive pas parce que on a peur du regard des autres. Donc en fait, c'est une question de confiance en soi. Mmh. Ou ça impacte l'écosystème familial parce que le conjoint ou la conjointe n'épouse pas le projet professionnel. Et donc il y a aussi un conflit finalement dans le couple par rapport à ça. Ou un conflit sur la façon de communiquer son besoin dans son couple. Mmh. Donc finalement, on vient travailler là-dessus. Ça peut être également une gestion des émotions qui est pas du tout présente. Typiquement, la personne veut changer de vie. Mais elle se rend compte que elle est complètement paralysée, elle n'arrive pas à passer à l'action parce qu'elle est aussi en colère contre son boss, ou elle se met à pleurer à la maison, mais elle se rend pas compte que ses larmes, elles expriment un mal-être professionnel qui est beaucoup plus marqué que ce qu'on ne croit. Donc en fait, on vient toucher tout un tas d'autres choses. Et c'est pas rare qu'on arrive avec un objectif qui est changer de carrière, et puis que finalement on repart avec un objectif qui est rester dans le même boulot, mais en gérant mieux son stress, ou en gérant mieux son temps, ou en gérant mieux son équipe vie pro, vie perso. Ou alors qu'on veut changer de carrière, mais finalement, ce changement de carrière, c'est pas qu'un changement de carrière, c'est aussi un changement, des fois, de
mari.
Voilà, exactement. ou alors, c'est on veut changer de carrière, mais pour pouvoir changer de carrière, il faut d'abord s'attaquer à la confiance en soi, à la capacité à croire en ses ressources, à mieux se connaître. Et donc finalement, le coaching, il va d'abord être ancré sur la confiance en soi. Et une fois qu'on a fini de travailler sur la confiance en soi, le changement de carrière, il arrive tout naturellement.
D'accord, ok. C'est un besoin de multiplier les activités. Parce que tu disais coaching individuel, enseignante, t'as écrit ce roman, animation d'atelier aussi.
Ouais.
T'as besoin de faire plein de trucs, je pense.
C'est une très bonne question. Ouais, j'ai besoin d'être nourrie par beaucoup de choses, et des choses très différentes. J'ai besoin d'une très forte stimulation intellectuelle, que ce soit par un public varié, des interlocuteurs variés, des rencontres variées, également des activités différentes. Il y a des gens qui me diraient, mais c'est pas insupportable de faire à la fois tes réseaux sociaux, ta comptabilité, tes coachings, de préparer tes cours. Oui, c'est vrai, j'arrête pas, je suis sur tous les fronts, mais en même temps, j'ai besoin de ça. Ça me rendrait presque triste, en fait, de laisser certaines de ces activités, parce que toutes, elles m'apportent des choses différentes. Quand je fais ma comptabilité, ouais, c'est très chiant, hein, c'est pas mon kiff absolu, mais je dois me mettre à jour sur certaines normes, sur certains modes de fonctionnement, donc ça me nourrit aussi sur certains, certaines choses. Les réseaux sociaux, ça me permet de faire un petit peu de rédactionnel par-ci par-là et de me mettre à jour. Il y a 2 ans avant de lancer mon entreprise, ben Instagram, j'avais même pas de compte et je savais même pas comment ça fonctionnait, en fait, et j'ai complètement has-been là-dessus. ce qui est pas grave, hein, c'est pas un problème en soi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en étant confrontée à cette problématique d'animation des réseaux sociaux, ben j'ai aussi appris sur des choses qui se font. Donc oui, j'ai besoin en fait d'être nourrie et stimulée par plein d'activités, par pas mal d'interlocuteurs et de me sentir créative dans ce que je propose. Même mes ateliers, en fait, je propose jamais le même atelier 2 fois de suite. Alors des fois, c'est un peu agaçant pour les gens qui me disent « Ah oui, mais j'ai loupé l'atelier de février, quand est-ce que tu vas le refaire ?»
Ouais.
Et je dis « Bah en fait, pas tout de suite, parce que j'en ai 5 autres nouveaux auxquels j'ai pensé. Ouais. » Mais oui, ça répond à un besoin.
L'écriture, donc tu disais, donc ton personnage s'appelle Adèle.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter déjà rapidement un petit peu de quoi parle ton livre ? Est-ce que Adèle, c'est un peu toi aussi ?
C'est une bonne question. Dans ce roman, en fait, donc c'est un personnage qui, je pense, représente assez bien le questionnement que vivent beaucoup de personnes par rapport au monde du travail et cette ambivalence entre à la fois j'aimerais un métier qui m'épanouit et en même temps j'arrive pas à partir parce que j'ai toutes ces peurs. Donc ce personnage, il cristallise ce rapport un peu un peu ambivalent qu'on a au monde du travail. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui s'identifie à sa carrière, mais en même temps qui s'épanouit pas, qui a énormément de mal à avoir un équilibre pro vie perso et qui dit en même temps OK, demain, je vais laisser plus de temps à mes amis, à mon conjoint, à mes activités et en même temps qui arrive pas à le faire parce que son boss lui demande si ou parce qu'elle a l'impression d'avoir un devoir par rapport à son entreprise. Donc en gros, c'est un personnage qui oui, est à la fois pas loin du burn-out, pas loin du bore-out, pas loin du brown-out, donc elle a un peu tout ça en elle, et en même temps qui arrive pas à partir. Et donc ce personnage, il mène en fait un parcours, je dirais un parcours à la fois de développement personnel, mais pas que, un parcours de vie, qui font qu'il va y avoir plein de prises de conscience, des claques aussi, des bonnes grosses claques, qui vont lui permettre de changer sa vie, donc je ne dis pas au lecteur ce qui se passe, parce que sinon je dévoile la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce personnage, par ce parcours de vie, il offre aussi au lecteur tout un tas de clés. Mmh. Un tas de clés de réflexion. Mmh. Je dirais pas des conseils, c'est pas du tout le but, mais c'est une des portes ouvertes.
En disant, tiens, je pourrais l'appliquer pour moi-même, peut-être.
Ou... Exactement, ouais. Je pourrais l'appliquer pour moi-même, ou tiens, le personnage te dit ça, mais est-ce que c'est pas la vraie pour moi également?
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de lecteurs qui m'ont dit, mais oui, en fait, il y a des réflexions dans lesquelles je me suis énormément reconnue. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, pitch du roman. Mmh. Sachant qu'il y a, en fait, c'est un peu un roman poupée russe, hein, on peut le prendre de façon très légère et juste se dire, bah, voilà, c'est un roman où il y a des péripéties de la vie de tous les jours avec des personnages. On peut lire un peu en roman de plage. Il y a un deuxième niveau très prégnant de développement personnel et un troisième niveau qui est plus d'analyse en fait des mutations de la société aujourd'hui. D'accord. Et du monde du travail. Et ce personnage, dans une certaine mesure, c'est un peu moi, dans le sens où certaines de ces réflexions sont des réflexions que j'ai moi-même eues. Par ailleurs, c'est pas forcément moi non plus parce qu'il y a des choses qu'elle vit que je n'ai pas vécues. Mais je dirais plutôt qu'en fait tous les personnages de mon roman sont un peu moi.
D'accord. Oui.
C'est-à-dire que chacun a une grille de lecture où chacun a des observations par moment que j'ai pu ou voir ou vivre ou me demander ou alors si je les ai pas vécues personnellement que j'ai pu observer chez les autres.
D'accord. Okay.
Et de la même façon en fait chaque personnage n'est pas une personne que je connais. Non. Mais chaque personnage porte aussi peut-être des petites brides de personnes que je connais. Donc voilà oui ce roman porte en lui tout un tas d'éléments de ma vie, de moi, de personnes qui me sont proches. Voilà, assez indirectement. Les gens qui me connaissent bien peuvent lire pas mal de choses. Ouais.
J'imagine. On part sur les 2 dernières questions. Ton conseil de coach pour changer de vie ou de métier. Par quoi on commence quand on a cette envie de changer et qu'on a ses peurs, c'est quoi le premier truc à faire?
Je pense que la première chose à faire, qu'on prend pas forcément le temps de faire, c'est de se demander pourquoi j'ai envie de changer. En fait, on est tellement accaparé par l'urgence de c'est plus possible, il faut que je parte, ça va pas, faut que je trouve autre chose, qu'on prend pas le temps de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc je pense que la première chose, c'est de comprendre. Est-ce que je suis pas bien parce que je m'ennuie, parce que les relations avec mes collègues sont toxiques, parce que j'ai besoin de plus de liberté, j'en ai pas dans mon métier? Parce que j'ai jamais pris le temps de voyager et là j'ai juste besoin d'un break.
Ouais.
Juste comprendre en fait la source du mal-être. Ça peut se faire avec un coach, ça peut se faire simplement en écrivant, peut-être avec du journaling. Ça peut se faire en prenant des temps pour soi, en s'extrayant de son quotidien par le voyage, etc. Mais vraiment, et j'invite les gens à l'écrire. Ouais. Parce que juste cogiter ça en rond dans sa tête, des fois, ça ne fait que nourrir des pensées négatives. Alors que juste se poser et se dire, ok, je vais écrire ce qui ne va pas. Déjà, c'est le sortir de sa tête et c'est déjà redevenir acteur. Rien que l'acte d'écrire, c'est dire, je prends le temps de faire cette analyse et elle me sera utile ensuite comme base pour la suite. Une fois qu'on a fait ça, c'est se dire, ok, j'ai vu qu'est-ce qui va pas. De quoi j'aurais besoin pour que ça aille mieux? De quel environnement? Il n'y a pas que le quoi dans le sens qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais devenir infirmier? Est-ce que je vais devenir travailleur nomade? Est-ce que je vais devenir coach? Est-ce que je vais devenir enseignant? Il n'y a pas que le quoi. Il y a aussi le de quel environnement j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de travailler en équipe? Est-ce que j'ai besoin de travailler seul? Est-ce que j'ai besoin d'être flexible dans mes horaires ou au contraire d'avoir une stabilité? Quelle est l'importance aussi du revenu et du salaire dans ma vie? De quelle liberté j'ai besoin? Est-ce que je suis autonome, créatif? Est-ce que j'ai envie de travailler en start-up? Est-ce que le secteur est important? Il y a des gens qui se fichent du secteur. Il y a des gens qui vont dire la finance de marché, jamais.
Ah oui.
Ou il y a des gens qui vont dire moi je veux être dans le secteur de l'écologie parce que c'est important pour moi. Les gens qui vont dire le secteur peu importe, ce qui m'intéresse c'est le produit ou c'est les personnes avec lesquelles je travaille.
Ouais, d'accord.
Donc vraiment se poser la question du quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes d'activité, d'action, qu'est-ce qui m'anime, du comment, dans quel environnement, avec quelle méthodologie de travail, avec quel entourage, quel type de personne. Et puis ensuite, se demander aussi quel est le sens qu'on a envie de donner à sa carrière. Les gens qui vont dire un travail alimentaire, ça me va du moment que je souffre pas de mon quotidien et que je suis libre et que j'ai un boss sympa. Il y a des gens qui vont dire non, en fait, il y a un sens qui est plus fort pour moi. J'ai besoin d'être nourrie intellectuellement, j'ai besoin d'être stimulée, voilà. Donc se poser ces questions-là. Et puis ensuite, ne pas rester dans le stade de l'introspection. Passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire networker, rencontrer des personnes, rencontrer des gens qui travaillent différemment, passer des entretiens des fois juste pour s'entraîner ou pour voir ce qui se fait ailleurs, se poser des questions, est-ce que aussi il n'y a pas d'autres statuts qui me conviennent, des statuts hybrides, qu'est-ce qui existe qui est pas forcément dans le cadre classique? Et donc pour ça, en fait, il n'y a pas de secret, c'est pas juste rester seul avec soi-même ou derrière son ordinateur, c'est aller à la rencontre de personnes qui font ça. Voilà. Donc ça, si j'ai envie de dire pour démarrer, après il y a tout un tas de conseils que partager aussi, mais et pour travailler sur ses peurs, c'est coaching, thérapie, lecture, journaling, en écrivant un petit peu ces peurs qu'on a, échange, mais pas échange avec des personnes qui sont toxiques, échange avec des personnes qui vont être capables de nous aiguiller, de prendre du recul, qui nous connaissent bien et qui nous veulent du bien.
Merci beaucoup pour ces conseils. Donc la dernière question, qui est donc la question récurrente de ce podcast, qui est qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, la vraie vie?
La vraie vie pour moi, c'est une vie qu'on mène qui est en alignement avec qui on est vraiment. Mais en fait, c'est vraiment cette vie où tous les matins, des fois, il y a des choses qui se passent pas comme on aimerait. Il y a des choses dures aussi qui arrivent dans la vie. Voilà, c'est pas parce qu'on mène une vie où on est bien entouré, on a le quotidien professionnel qu'on souhaite qu'il n'y a pas des choses parfois difficiles qui vont survenir. Faut le savoir. Mais c'est se dire, quand bien même il y a tout ça, en fait, on est content de se lever le matin. On a confiance dans les personnes qui nous entoure, on a confiance dans les ressources internes qu'on a en soi pour faire face.
D'accord.
Et on est capable, en fait, de tirer du positif de toutes ces petites choses qu'on se fait. Donc, la vraie vie, il y a deux choses. Il y a le travail qu'on a fait sur soi pour être capable d'apprécier et de se faire confiance, quoi qu'il arrive. Et ensuite, l'environnement qu'on est capable de se créer. Et pour ça, c'est plus le travail intérieur, mais le travail de passage à l'action pour faire en sorte d'aimer ce qu'on fait. De se sentir libre si on a besoin de liberté, de se sentir en sécurité si on a besoin de sécurité. Donc c'est simplement créer cet environnement autour de soi qui correspond à ses valeurs profondes.
Super. Merci beaucoup, Amandine.
Avec plaisir.
C'est très intéressant.
Merci d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie. J'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraievie, mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite !